Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans Décryptage consacré ce soir à la Corée du Nord. Pyongyang a rétabli ce matin son téléphone rouge avec la Corée du Sud. Et dans la foulée, des responsables des deux pays ont participé à une conversation téléphonique. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait fait part de son intention de rétablir les canaux de communication entre les deux Corées. Il avait présenté cette décision comme une tentative d'établir une paix durable dans la péninsule. Mais dans le même temps, cette reprise intervient après une nouvelle série de tirs de missiles nord-coréens. Ils ont d'ailleurs soulevé de nombreuses inquiétudes. Ils ont aussi provoqué une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi. Et Pyongyang a par ailleurs rejeté l'offre de dialogue proposée par les États-Unis. Alors à quoi joue Kim Jong-un? Comment interpréter ce climat à la fois de détente et de tension dans la péninsule coréenne? Et que nous dit-il de la stratégie du régime nord-coréen sur la scène internationale? On en parle pendant 20 minutes avec notre invité. Bonsoir Dorian Malovic.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, chef du service Asie au quotidien français La Croix. Vous êtes spécialiste de la Corée du Nord, où vous êtes d'ailleurs rendu pendant une dizaine de jours, c'était en 2017. Et vous avez écrit avec Juliette Morillot l'ouvrage « La Corée du Nord en 100 questions » paru aux éditions Talendier. Alors d'abord, expliquez-nous Dorian Malovic, qu'est-ce que ce téléphone rouge entre la Corée du Nord et la Corée du Sud?
Bah, écoutez, comme son nom l'indique, symboliquement, alors téléphone rouge, c'est téléphone d'urgence, c'est ligne d'urgence, hein, c'est-à-dire alors, et ça n'est pas seulement, alors c'est pas seulement utilisé en cas de crise majeure. D'abord, effectivement, faut que cette ligne, elle soit connectée. Donc, elle a été maintes fois depuis des années reconnectée, déconnectée, reconnectée. Alors là, on la reconnecte très bien. Alors, vous avez deux téléphones de chaque côté de la frontière, hein, dans des bureaux de liaison au sud et au nord. Et ce matin, ça a duré 2 minutes, la conversation. Nous sommes contents de reprendre le contact et essayons d'avoir des relations harmonieuses afin d'arriver à une paix durable entre nous deux. Voilà, en gros, le message. C'est une conversation qui va reprendre le matin à 9h et l'après-midi à 17h pendant 2 minutes. Et c'est quand même aussi très important parce que ça, c'est la ligne civile, des civils. Donc ça, c'est du discours quotidien. Mais vous avez aussi la ligne militaire qui a été aussi reconnectée. Et celle-là, vous l'avez à l'ouest du pays et à l'est, c'est-à-dire au passage des frontières. Et les militaires discutent aussi. Ce qui est intéressant parce que vous avez la mer de chaque côté et vous avez des potentiels problèmes possibles, soit entre des bateaux, des gardes-côtes, ou bien des bateaux militaires, ou bien de la pêche illégale entre les deux pays. Et là, ça permet de régler, ça permet de discuter et d'éviter des escarmouches ou des éclats qui ne seraient pas les bienvenus. Donc déjà, c'est une bonne chose.
Donc il faut a priori y voir peut-être le début d'une nouvelle phase d'apaisement initiée par la Corée du Nord ?
Alors début d'une nouvelle phase où effectivement, alors moi je dirais que après la saison des missiles de septembre où vous avez eu 4 missiles tirés par la Corée du Nord, là on s'ouvre une ère un petit peu de réconciliation, je dirais pas la saison des amours, mais entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, en fait c'est en permanence je t'aime moi non plus et puis je t'insulte et puis je reviens vers toi, mais tout ça dans une stratégie nord-coréenne très bien orchestré, parce que la Corée du Nord sait très bien utiliser l'allié sud-coréen quand c'est nécessaire, à la fois parce qu'elle sait plus que jamais en ce moment que le président sud-coréen a besoin de résultats dans sa diplomatie avec le Nord. Vous avez le cadre d'une présidentielle en mars 2022. Les résultats du rapprochement avec le Nord depuis 4 ans ne sont pas très tangibles du côté sud-coréen. La population n'est pas très contente non plus économiquement. Donc le Nord, c'est très bien ça. Et en même temps, mais ça je reparlerai après, vous avez évidemment le rapport avec les États-Unis qui est une sorte de billard entre la Corée du Sud et les États-Unis.
Et on va effectivement y revenir. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous dites. On va écouter une déclaration de Kim Jong-un. On est le 27 avril 2018. Ce jour-là, le dirigeant nord-coréen franchit la ligne de démarcation en béton qui sépare les deux Corées. Il rencontre le président sud-coréen. C'est un moment historique. Il est, il faut le rappeler, le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol de la Corée du Sud depuis la guerre de Corée dans les années 50. Écoutez ce qu'il en disait à l'époque et on commentera juste après.
En franchissant la ligne de démarcation, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas bloquée par quelque chose de trop grand à traverser et que ce moment historique s'est déroulé très facilement, mais a pris 11 ans. Si nous nous rencontrons régulièrement avec des pensées unies et avec détermination, nous pouvons nous rapprocher et nous assurer que les 11 années perdues valent quelque chose. C'est ce que j'ai pensé et j'ai été submergé par l'émotion en marchant sur ces 200 mètres.
Dorian Malovic, on entend Kim Jong-un dire « J'ai été submergé par l'émotion en marchant sur ces 200 mètres ». Depuis cet épisode, quels étaient les rapports entre les deux Corées et quelle était la nature de leurs échanges, s'il y en avait ?
Ah ben, alors là, à cette époque-là, on était, si vous voulez, dans le pic de ce qui pouvait se faire de mieux dans le rapprochement. Et à l'époque, on parlait vraiment de rencontres historiques. C'était évidemment entre les deux Corées, c'était un rapport historique aussi avec la première rencontre d'un leader nord-coréen avec un président élu américain. Donc on était là dans une forme de promesse, dans une forme d'espoir de quelque chose qui allait se régler. Et puis tout a déraillé. Pas nécessairement à cause de la Corée du Sud d'ailleurs, mais en fait tout a déraillé à Hanoï en 2019, l'année suivante. On était proche d'une déclaration commune avec Trump, et puis lors d'un déjeuner à Hanoï, tout a un petit peu explosé en vol, si j'ose dire, et tout le monde est parti de son côté, et ça s'est terminé, et l'échec de Hanoï a refermé ces fenêtres, ces portes qui s'étaient ouvertes après avec Trump, en réalité, et depuis, écoutez, c'est l'impasse, c'était des hauts et des bas, il n'y a pas eu de véritables échanges qui soient, je dirais, vraiment diplomatiques, économique ou autre, c'est fermé. Et en fait, il faut pas oublier que voilà, 2019 c'était fermé, début 2020 le coronavirus arrive de Chine un peu partout dans le monde et la Corée du Nord ferme ses frontières et s'isole à nouveau. Et là, on est dans une sorte de période de glaciation, mais je dirais comme l'ère glaciaire, c'est-à-dire c'est fermé, c'est le royaume ermite qui reprend ses droits.
On a quand même le sentiment qu'il y a d'une part le discours politique avec, par exemple, ces déclarations de la sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, qui a affirmé que la Corée du Nord pourrait envisager prochainement un sommet intercoréen et peut-être même envisager la fin officielle de la guerre de Corée sous certaines conditions. Et puis, de l'autre côté, on a ce qu'on pourrait appeler le discours militaire avec tous ces tirs de missiles de ces derniers jours. Comment est-ce que vous analysez, d'une part, ce rapprochement et d'autre part, la poursuite de cette course à l'armement? Quel est le message que Pyongyang cherche à faire passer?
Je suis très impatient de vous répondre parce que vraiment, dans l'esprit nord-coréen, il n'y a pas de contradiction du tout. Elle sait, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, elle sait qu'avec le voisin du Sud, elle peut tenir des propos, je dirais, très sucrés, parce qu'elle sait que le Sud y répondra toujours. C'est-à-dire la moindre main tendue vers le Sud, elle sera saisie par le Sud, tellement le Sud veut se rapprocher, faire des progrès, avoir des échanges économiques, avancer sur ce dossier. Et même si les deux veulent et affirment dire vouloir un traité de paix, je rappelle que techniquement ces deux pays sont toujours en guerre, c'est seulement en 53 un armistice qui a été signé et donc ils sont toujours techniquement en guerre. Donc le rêve d'une paix durable est dans les esprits, mais que le Nord utilise le Sud pour avoir des propos très très réchauffants, c'est une chose. Mais de l'autre côté, la Corée du Nord sait très bien que le Sud, pour un peu expliquer en résumé, le Sud ne peut rien faire si l'allié du Sud américain ne donne pas son feu vert, pour résumer. Donc, la pression doit être faite avec les missiles, je dirais, dans la région, savamment dosé, c'est-à-dire que vous n'avez pas de missiles intercontinentaux qui ont été testés cette année, qui menaceraient les États-Unis. Donc les États-Unis n'ont pas à réagir vraiment violemment. Donc on est dans la région. Le Sud sait aussi que la Corée du Nord ne va pas envoyer des missiles sur la Corée du Sud. Et donc, bon, le Japon reste inquiet, évidemment, parce que c'est le voisin, mais qui n'est pas coréen.
Et inquiétude de la communauté internationale, en tout cas des États-Unis avec les tirs de ces derniers jours. Pyongyang a annoncé avoir testé avec succès ce qu'on appelle un missile planeur hypersonique. De quoi s'agit-il ?
Alors, ça c'est première chose, rien n'a été vérifié, homologué, je dirais. Enfin, je veux dire extérieurement à la Corée du Nord, on ne sait pas véritablement si c'est un missile hypersonique. En gros, hypersonique, c'est un missile qui va à 3, à Mach 3, Mach 4, très 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 rapide. Mais l'intérêt pour les observateurs, c'est pas de savoir s'il a volé à 4000 km/h, c'est de savoir comment ce missile a été, je veux dire, comment ils ont fait le plein de ce missile. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du fuel liquide traditionnel? Est-ce qu'ils arrivent à maîtriser le fuel solide qui est plus facile à transporter? Donc ça veut dire que les missiles, on peut les transporter partout et sont moins facilement localisables. Et c'est ça les progrès, enfin, technologique de tous ces missiles, c'est que pour chaque missile de croisière, balistique, hypersonique ou anti-aérien, les Nord-Coréens évoluent et progressent dans le guidage, dans le ciblage et dans les fuels. Parce que, ultimement, je termine juste sur ce dossier de missiles, on doit s'attendre, mais peut-être pas maintenant parce que ça se réchauffe, c'est que la Corée du Nord teste des missiles intercontinentaux partant d'un sous-marin. Ce sera un autre niveau de maîtrise technologique, parce que là, il faudra du fuel solide.
Mais alors justement, Dorian Malovic, comment est-ce qu'on peut, en tant que journaliste, vous êtes journaliste, je le suis aussi, faire la part des choses entre la propagande de Pyongyang et la réalité de ces avancées dans la course à l'armement, parce qu'on est complètement tributaire aujourd'hui de la communication officielle de Pyongyang, de la propagande finalement.
Oui, alors, il y a propagande et il y a quand même des images. Et vous avez évidemment des services, je dirais, sud-coréens, japonais et américains très pointus qui vont vous décrypter, alors, par des images satellites d'abord et puis par les photos. Moi, c'est des sources ouvertes, hein, et ils vous expliquent que ce missile, vu sa forme, vu le petit bout de l'aileron au bout ou la tête, etc., eux sauront décrypter ce qui est la part possible de propagande et de ce qui est réel dans les avancées, quoi. Enfin, je veux dire, ça. Mais effectivement, ça prend beaucoup de temps, ça prend du temps. Mais il y a des choses, je pense, beaucoup plus faciles à décrypter que d'autres, quoi. C'est comme les essais nucléaires souterrains. On a les secousses, on a des choses, mais c'est pas si simple.
Vous qui avez été en Corée du Nord pendant une dizaine de jours en 2017, quel est le discours justement sur cette course à l'armement ? Est-ce que vous avez pu vous parler à des personnes qui vous accompagnaient ? Parce qu'il y a toujours cette idée qui revient d'une peur d'une invasion américaine. Est-ce que c'est quelque chose qui est très présent dans les esprits ?
Alors en fait, ce qui est, vous me faites penser à ça. En fait, tous les gens avec qui vous parlez, que ce soit bon des ouvriers dans une usine, un patron d'usine, dans un restaurant, avec votre guide, les diplomates, etc. En fait, tous vont vous dire la même chose et vont vous parler de ce pays qui, depuis 1953, vit sous la menace impérialiste américaine, qui a des bases en Corée du Sud, qui a des bases au Japon, qui est à Guam dans le Pacifique et qui peut attaquer la Corée du Nord et la réduire à néant, et que la Corée du Nord justifie tout son programme nucléaire, tout son programme balistique missile balistique pour se défendre en dépit des résolutions de l'ONU qui les lui est interdit, mais elle considère qu'elle est entourée d'ennemis, hormis la Chine et la Russie, et qu'à ce titre, elle a le droit de se défendre, elle voit pas pourquoi elle aurait pas le droit. Ça, c'est ça logique. Et donc, finalement, comme le problème diplomatique n'est pas réglé depuis 1953, il y a eu des tentatives, même avec Clinton, Madeleine Albright, enfin, il y a eu des essais, des tentatives, mais en attendant, les programmes sont réels, et la Corée du Nord est une puissance nucléaire. De facto, et donc il faut prendre ça en compte.
Et la Corée du Nord est aussi sous sanctions internationales. Oui. Elle souhaite une levée ou peut-être levée partielle de ces sanctions. Plus que jamais, oui. Les États-Unis, l'administration Biden a à plusieurs reprises récemment proposé de reprendre les pourparlers avec Pyongyang. Oui. Ce que Pyongyang refuse.
Rejette,
pourquoi?
Oui, ça c'est le jeu. C'est le jeu, c'est-à-dire que très bien, Biden, le démocrate, bon après Trump, le républicain, dit on vous rencontre sans préalable, c'est-à-dire sans condition préalable. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de faire ça d'abord, enfin, je veux dire, arrêter les tirs ou faire des gestes positifs pour qu'on vous rencontre. On vous rencontre simplement. Biden dit ça, mais il sait très bien que la coroner ne va pas répondre oui tout de suite, comme ça. Et en fait, je ne suis pas certain que Biden ait envie d'engager aujourd'hui comme ça un dialogue, parce que le souvenir cuisant, je dirais, de l'échec, parce que c'est un échec américain, même si c'est Trump, c'était un échec américain, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on met sur la table ? Les Nord-Coréens veulent la levée des sanctions, c'est ce qu'il y avait à choper en 2018-2019, c'est ça qu'il y avait à choper. Les États-Unis n'accepteraient de lever les sanctions que si il y avait processus de dénucléarisation. Et c'est là où l'équation, elle est quasiment impossible à résoudre. C'est-à-dire que aujourd'hui, profondément, je dis, je suis pas le seul, la Corée du Nord n'acceptera pas de dénucléariser. Elle ira jusqu'à geler ce qu'elle a. Et on la considère comme une puissance nucléaire. Et après, on peut discuter. Mais de l'autre côté, Biden et les puissances occidentales, Grande-Bretagne et France, États-Unis, qui ont demandé la réunion d'urgence du Conseil de sécurité la semaine dernière, ils sont d'ailleurs pas arrivés à une résolution parce que la Chine et la Russie se sont opposés. Mais tout le monde demande d'abord la dénucléarisation. Mais ça sera compliqué.
Et ça sera compliqué.
Personne ne va aller l'avant. Si Biden fait des pas en avant,
Dorian
et rate.
Malovic, voilà. Pardon, je vous coupe. Je voudrais savoir, c'est sanctions, très concrètement, oui. Qu'est-ce qu'elles ont comme impact, d'une part sur le régime et d'autre part sur la population nord-coréenne?
Je pense que ça, c'est effectivement, en 2016, ce sont les résolutions de sanctions économiques les plus dures qui ont jamais été votées à l'ONU, et là, ça a porté un coup difficile à la population. Et moi, j'y suis allé l'année d'après, bon, il y avait des réserves, et en même temps, il y a des échanges commerciaux pratiquement unique, mais énorme avec la Chine, qui est quand même le pourvoyeur alimentaire, le pourvoyeur d'énergie.
Ces échanges, ils ont quand même diminué avec la crise du Covid-19.
Mais alors, sur ce, c'est ajouté, évidemment, ce dont on parlait tout à l'heure, de la fermeture des frontières et des échanges qui se sont quasi arrêtés, pas complètement, mais là, je pense qu'il y a un diplomate nord-coréen que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, me disait, il y a quand même des difficultés dans l'agriculture, il y a des difficultés je dirais d'alimentation pour la population, des rationnements, on peut pas parler de famine, mais il y a quand même de la malnutrition, et c'est vrai que là, c'est un coup très rude pour la population, et les sanctions, effectivement, pour Kim Jong-un, le leader, de lever ces sanctions devient de plus en plus urgent, mais en même temps, il sait que son peuple, la propagande sera suffisamment habile pour montrer que les missiles qu'il tire, évidemment, il y a toujours une portée intérieure, hein, c'est-à-dire que le pays est puissant, donc ça, il arrive toujours à le présenter en avant, et que vos sacrifices nous permettent de nous défendre. C'est cette logique-là.
Et effectivement, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a reconnu, hein, au mois de septembre, que son pays était actuellement confronté à une crise alimentaire. Mmh. Est-ce que la Corée du Nord, aujourd'hui, reçoit de l'aide humanitaire ?
Ben non. C'est un peu la difficulté. D'abord, elle n'est pas partante pour en recevoir. Enfin, apparemment, sur le plan médical et sur le plan humanitaire, il y a eu des démarches qui ont été faites par l'ONU. C'est pas si simple que ça. Et pour le moment, le pays est fermé. Mais c'est par crainte du Covid. Alors, officiellement, il n'y a aucun cas de Covid. Il y a eu des milliers de tests, mais bon, il n'y a pas de cas. Mais ceci dit, Biden aussi serait prêt à faire un effort, mais je ne suis pas sûr que le Nord soit prêt à l'accepter.
Merci beaucoup, Dorian Malovic, d'avoir été en direct avec nous. C'était le décryptage du jour. Je rappelle que vous êtes journaliste à La Croix, spécialiste de la Corée du Nord et auteur avec Juliette Morillo du livre La Corée du Nord en 100 questions, paru aux éditions Talendier. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci également à Claude Battista, à la réalisation. Et on se retrouve demain à la même heure, 17h10, temps universel. Très belle soirée sur RFI.
Priorité santé. Caroline.